Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Les affaires d'État sont des affaires politiques qui impliquent des membres du gouvernement d'un État ou de plusieurs États. Dans une collection thématique des éditions Glénat, le scénariste Philippe Richel a choisi d'en raconter trois. La guerre froide dans les années 60, l'extrême droite dans les années 70 et surtout Djihad, dans laquelle les services secrets français, iraniens et d'autres encore sont à la manœuvre dans les années 80. Le tome 2 de Djihad vient de sortir. Philippe Richel est l'invité d'Orient Hebdo. Ensuite, nous prendrons connaissance des grands titres de la presse régionale, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Philippe Richel.
Bonjour.
Scénariste de bande dessinée, vous écrivez depuis votre première collaboration avec le journal Tintin en 1984. En particulier, vous aimez mélanger l'histoire, la vraie, avec des intrigues policières. Pourquoi ?
Ça tient en fait que je suis un passionné d'histoire, d'une part, et que j'aime le polar, même si je ne suis pas un grand lecteur de polar. En revanche, je suis un dévoreur d'ouvrages historiques. Ça, c'est vraiment une grande passion. Et je considère, je ne suis pas le seul loin de là, qu'on ne peut essayer de comprendre le présent que si on essaye de comprendre le passé. Et en étudiant le passé, on se rend compte qu'il y a beaucoup de constantes, de comportements qui reviennent au fil des époques, que la nature du pouvoir finalement change peu, pour ne prendre que cet exemple-là, qu'il y a toujours eu des guerres et que malheureusement, il y en aura toujours.
Et il y en a en ce moment.
Et il y en a en ce moment d'ailleurs. Donc voilà, et je trouve globalement qu'à l'heure actuelle, dans le débat public et même dans les débats sur Internet, on sent quand même, je n'oserais pas dire une méconnaissance, mais peut-être une connaissance trop lacunaire ou trop faible du passé, de ce qui s'est passé avant l'époque actuelle. Et ça, je le déplore un peu.
L'éditeur Glénat propose une série de polars historiques, donc, sous le nom générique d'Affaires d'État. En quoi est-ce intéressant, les Affaires d'État ?
Mais les affaires d'État, c'est intéressant parce que bon, derrière les affaires d'État, il y a souvent ce qu'on appelle des secrets d'État, des secrets défense, donc des éléments qui sont cachés du grand public. Et en général, les véritables affaires d'État, on en connaît les tenants et aboutissants que bien après qu'elles aient eu lieu. Et donc, ce sont des affaires qui mettent en cause directement les autorités de l'État, parfois les plus hautes autorités de l'État, qui les impliquent dans des affaires à caractère illégal.
Justement, les trois événements que vous revisitez dans cette série, proposée par Glénat, et de façon d'ailleurs indépendante, quels sont-ils ces trois événements ?
Donc on commence, le premier cycle s'appelle « Guerre froide » et se déroule dans les années 60. Comme le titre l'indique, là il est question clairement des relations Est-Ouest, donc Occident versus bloc soviétique. Et c'est en fait un récit d'espionnage inspiré d'une affaire réelle, l'affaire Golitsyn, qui s'est déclenchée au début des années 60. Golitsyn est un transfuge soviétique qui a atterri à Washington, qui a été pris en main par la CIA, par le fameux Jesus Engelton, qui était un anti-soviétique virulent et qui a pris pour argent comptant toutes les révélations que lui distillait Golitsyn au fil des années. Et parmi ces révélations, un certain nombre concernaient la France gaulliste à l'époque, qui n'entretenait pas d'ailleurs les meilleurs rapports avec les États-Unis, comme on le sait. Et parmi ces révélations, il était question d'une implantation massive d'agents soviétiques dans les services qu'on appelle les services, donc les services de renseignement français, le SDES, etc. En particulier le SDES, d'ailleurs. Avec pour conséquence que ça a jeté évidemment la bisbille au sein du SDES, où chacun se regardait en chien de faïence. Tiens, est-ce que mon voisin de bureau n'est pas un agent soviétique ? Donc finalement, le SDES a perdu une grande partie de son efficacité pendant plusieurs années à cause de ces révélations.
La deuxième série, c'est sur quel thème ?
Alors la deuxième série, là on est dans les années 70, on s'intéresse à l'extrême droite naissante, Je fais référence au jeune Front National fondé par Jean-Marie Le Pen. Et le théoricien du Front National, François Duprat, est assassiné dans des circonstances mystérieuses. Et c'est le point de départ d'une enquête qui va emmener les policiers sur la piste de mouvements d'extrême droite, de collabos blanchis sur le harnais, mais aussi de militants d'extrême gauche. Et dans la suite de la série, mais là j'anticipe un peu, il sera question des GAL, donc ces fameux commando composé essentiellement de Français qui agissaient sur le sol français pour éliminer des militants de l'ETA, oui, réfugiés en France pour fuir le franquisme.
Et le troisième sujet qui est développé, c'est djihad.
Oui.
Alors, de quoi s'agit-il? Ça se déroule, je crois, dans les années 80, et ça nous intéresse, hein, c'est une affaire qui a concerné la France et l'Iran.
Oui, tout à fait. Donc, tout commence en 82. Entre 82 et 86, une société d'armement française, la société Lucher, va vendre des obus à l'Iran. Or, il faut savoir qu'à l'Iran, depuis 79 et l'arrivée de Khomeini au pouvoir, a été placé sous embargo par l'Occident. Et en principe, donc, Lucher n'a pas le droit de fournir de l'armement à l'Iran. Donc, on va contourner les règles officielles et la société Lucher, via des intermédiaires, va convaincre le ministre de la Défense de l'époque, ministre socialiste Charles Hernu, de donner son feu vert. Il faut savoir que quand des armes sont vendues à l'étranger, l'État, à travers une commission créée à cet effet, donne son aval ou pas. Et là, en fait, l'autorisation a été donnée par cette commission parce qu'il y a eu un mensonge sur la destination finale des armes. Il était question comme destination finale de la Thaïlande, du Brésil et d'un troisième pays, le Portugal je pense, alors qu'en réalité les armes étaient livrées à Bandar Abbas qui est un grand port au sud de l'Iran. L'affaire a éclaté en 86, juste avant les élections législatives.
D'ailleurs, est-ce qu'elle pèse sur ces élections législatives en France ?
Je ne pense pas qu'elle pèse directement parce que la droite avait le vent en poupe, mais néanmoins, oui, ça a quand même peut-être un peu joué.
D'accord.
Mais ça n'a pas été décisif dans l'élection et la première cohabitation, donc l'arrivée de Chirac au poste de Premier ministre. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi les protagonistes de cette affaire, finalement, seuls les sous-fifres ont été inculpés, à savoir un chef de cabinet de Charles Hernu, nommé Dubos, le patron de la société Lucher aussi, et puis quelques années après, tout ça s'est terminé par un non-lieu.
Alors, dans le tome 2 qui vient de sortir, est-ce que l'on assiste à une guerre au sein des services de renseignement français ?
Oui, mais ça, c'est de la fiction, ça, hein. Ça, c'est la part de fiction que j'ajoute à l'affaire. Maintenant, la lutte entre les différents services, elle a toujours existé, elle existera toujours, hein. Il y a une rivalité très ancienne entre les différents services, les RG, la DGSI qui s'appelait la DST à l'époque, la DGSE qui s'appelait le SDES. Il y a toujours eu des rivalités à ce niveau-là, ça c'est indéniable.
Il y a aussi la question des rétrocommissions que les différents camps s'arrachent. C'est une pratique habituelle pour gagner des contrats ?
Oui, on le sait, hein, il y a forcément de l'argent à la clé. Donc là, pour l'affaire Lucher, on parlait d'une somme de 3 millions de francs français. J'ai calculé, ça fait à peu près 500 000 euros, qui auraient été versés donc par Lucher et des intermédiaires au ministère Hernu, avec soupçon évidemment que cet argent ait alimenté les caisses du Parti Socialiste, ce qui n'a jamais été prouvé d'ailleurs. Hein. Comme je l'ai dit, le procès s'est terminé par un non-lieu général. On a étouffé l'affaire, voilà. On est dans un contexte très très particulier à cette époque-là, parce que si l'Iran a besoin d'armes, c'est parce qu'elle a engagé une guerre qui durera assez longtemps avec son voisin irakien, soutenu à l'époque par les Occidentaux. Saddam Hussein est le grand ami de la France, des États-Unis, etc. Et donc l'Iran, sous embargo, a besoin de trouver des armes, et elle les cherche un peu partout, elle les trouve en France. Mais la France est peut-être le talon d'Achille des pays occidentaux potentiellement susceptibles de livrer des armes, dans la mesure où elle a un contentieux financier très très important avec l'Iran.
Est-ce que c'est l'affaire Eurodif ?
C'est la fameuse affaire Eurodif. Nous sommes au début des années 70 et plusieurs pays européens, France en tête, décident de créer dans la Drôme provençale, à Tricastin exactement, un important complexe nucléaire. Donc plusieurs pays européens sont partenaires. L'un d'eux se retire, la Suède, ce qui met tout le monde dans l'embarras. Et le Shah d'Iran, qui à l'époque est le grand allié des Occidentaux, remplace la Suède. Et par ailleurs, en plus, il octroie un prêt pharaonique au projet.
$1 milliard, c'est cela ?
Oui, c'est une somme très importante pour l'époque. Et en 79, suite à l'embargo sur le régime de Téhéran, le régime chiite de Khomeini, les contrats sont résiliés de manière unilatérale par l'Occident, et en particulier le contrat Eurodif. Et donc l'Iran réclame l'argent qui lui est dû, l'argent investi par le Shah, par le régime du Shah précédemment.
Philippe Richel, à quels éléments et dossiers avez-vous eu accès pour écrire ce scénario ?
Écoutez, je n'ai pas eu accès à des documents confidentiels, des documents déclassés. Je multiplie les lectures. Je vais rechercher très loin. Il doit y avoir, je sais pas, une vingtaine de bons bouquins écrits tantôt par des témoins, souvent des policiers d'ailleurs, des bouquins d'historiens, des bouquins de spécialistes en géopolitique. Donc voilà, je compile tout ça et j'essaye de faire la part des choses et de rester dans la nuance, dans l'explication claire pour bien faire comprendre les mécanismes de ce genre d'affaires.
Et donc, il y aura deux autres tomes pour une série qui en comportera quatre, c'est cela ?
Oui, tout à fait, et on va embrayer. On l'annonce déjà à la fin du deuxième tome. Le deuxième tome se termine sur un attentat à Paris. Et donc, on embrayera sur les attentats à Paris dans les années 85-86, qui ont longtemps été attribués par le pouvoir aux Farl d'Ibrahim Abdallah. Les Farl, c'est un mouvement de guérilla libanais d'obédience communiste, mais il apparaît avec le recul qu'en réalité, l'Iran était derrière ces attentats. Et encore une fois, on ne peut s'empêcher de vouloir établir un lien entre ces attentats et le contentieux Eurodif.
Merci Philippe Richel.
Merci à vous.
Donc scénariste de la bande dessinée Djihad, dont le tome 2 vient de sortir aux éditions Glénat.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous lisons maintenant la presse de la semaine avec Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Alexandre, la visite du président turc en Arabie Saoudite est à la une de la presse du Golfe et suscite également des commentaires dans d'autres journaux arabes.
Oui, pour la presse saoudienne d'ailleurs, c'est une nouvelle ère qui commence entre Riyad et Ankara. Alors une ère qui profitera aux deux grands pays, écrit un éditorialiste. Certains n'hésitent pas à parler de moments historiques où les deux grandes puissances de l'islam sunnite se réconcilient de manière spectaculaire. Enterré le journaliste Jamal Khashoggi, cet opposant assassiné au consulat saoudien d'Istanbul. La Turquie a en effet récemment décidé de confier l'enquête aux autorités saoudiennes. Ankara fait face à une crise économique qui provoque une grogne grandissante contre le président Erdogan. Or, l'Arabie saoudite est un marché très lucratif pour les produits industriels agricoles turcs et surtout un client potentiel pour l'armement Made in Turkey. Ce n'est donc pas un hasard si Erdogan est accompagné par son ministre de la Défense, souligne un éditorialiste. Pour l'Arabie, une Turquie amicale est un allié potentiel et puissant en cas de tension accrue avec l'Iran si un accord est trouvé avec les États-Unis sur le nucléaire. Un éditorialiste égyptien note que c'est dans le même état d'esprit que la Turquie a entamé un rapprochement avec l'Égypte. Cette fois, il s'agit d'intérêts gaziers en Méditerranée orientale.
Michel Paul, tensions sécuritaires et crises gouvernementales, ce sont les sujets principaux que l'on retrouve dans vos journaux.
Et oui, ce sont encore les sujets qui préoccupent les Israéliens, qui font la une de tous les médias. Mais Eric, c'est le dernier week-end du Ramadan et nombre d'experts cités par le quotidien de gauche à Haaretz se déclarent persuadés que l'on va assister à un retour au calme dans les prochains jours. En attendant, la tension est toujours très palpable et les incidents se multiplient. Israël Hayom, le quotidien très marqué à droite, affirme que des manifestants palestiniens ont pillé un site archéologique sur l'esplanade des mosquées pour en utiliser les pierres contre les forces de l'ordre israéliennes. La presse se penche aussi sur les tirs de roquettes à partir de la bande de Gaza, avec notamment cet article dans le quotidien Maariv. Israël doit décider une fois pour toutes jusqu'où il est prêt à aller pour mettre fin au double jeu du Hamas, écrit son auteur. Une question aussi que l'on retrouve dans les journaux, la visite de Mansour Abbas, le chef du parti islamique israélien à Amman, et sa rencontre avec le roi Abdallah, pourrait-elle marquer le début d'une solution à la tension actuelle ?
Une polémique au Maroc, Alexandre, après l'arrestation d'un groupe de jeunes pour non-respect du Ramadan.
Oui, et les journaux rapportent les déclarations du ministre chargé des affaires parlementaires selon lequel l'exercice de la liberté ne doit pas être provocateur à l'égard de la liberté des autres. L'affaire a commencé il y a quelques jours quand la police a fait une descente contre un restaurant chinois où des jeunes mangeaient durant la période de jeûne. Une arrestation à grand spectacle puisque la police avait convoqué les médias. Conformément à la loi marocaine, le musulman qui mange publiquement durant le Ramadan est passible d'un à six mois de prison. Une loi que des défenseurs des droits de l'homme estiment contraire au principe de liberté individuelle garanti par la Constitution. Il y a une dizaine de jours, une polémique médiatisée avait eu lieu en Égypte quand un restaurant avait refusé de servir des chrétiens durant la période de jeûne. La loi égyptienne interdit de servir de l'alcool aux Égyptiens durant le Ramadan, mais pas de manger ou de boire publiquement.
En bref, Michel, les autres sujets qui font l'actualité en Israël.
À deux reprises en une semaine, la famille du Premier ministre Naftali Bennett a reçu des menaces de mort sous forme de lettres contenant des balles de fusil d'assaut et avec ce mot « démission ». Des voix qui ressurgissent du passé, fait remarquer un journaliste qui fait référence bien sûr au meurtre d'Yitzhak Rabin. Autre sujet, le rappel des produits chocolat du consortium Strauss Elite pour cause de salmonellose, un sujet qui affecte tous les Israéliens qui sont désormais privés de chocolat. Ce titre aussi, une source gouvernementale estime qu'Israël ne pourra pas respecter ses propres engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique et à retenir aussi des médias israéliens qui affirment que lors d'une conférence au Liban, des appels ont été lancés en faveur de l'abrogation de l'interdiction des contacts avec Israël. Et c'est, Eric, un sujet à suivre.
Et finalement, les images que vous avez retenues.
À l'occasion de la journée de la Shoah qui a été observée ici jeudi dernier, les photos de survivants ukrainiens de cette sombre période qui revivent des événements traumatiques. Nombre d'entre eux réfugiés en Israël ont participé aux cérémonies du souvenir.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Gulchani. Retrouvez-nous sur le site de la radio RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, à 15 jours des élections législatives au Liban, nous évoquerons une piste de réflexion concernant l'évolution de la politique libanaise avec notre invité Hikmat Abou Zeid, auteur d'un essai « La révolution institutionnelle au Liban » publié par la librairie Antoine à Beyrouth. Il sera notamment question de décentralisation. À demain donc, prenez soin de vous.